Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Erdiwa sur le 107.5 FM, Radio Saint-Ferréol sur le 94.2 et puis pourquoi pas internet sur le www.rdw.fr. La biotope du jour va se concentrer sur le label Biosolidaire avec en ma compagnie autour de la table Laurence Arnaud de Biopartenaire, bonjour.
Bonjour.
Thibert Vink de l'Herbier du Biwa, bonjour.
Bonjour.
Et Guy Leclerc de Phytosan.
Bonjour.
Nous sommes donc ensemble pour ces 20 prochaines minutes pour présenter un petit peu ce label Biosolidaire et puis pour avoir le regard des deux entreprises que vous êtes, que vous représentez, Thibert et Guy. Laurence, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de ce label ?
Le label Biosolidaire, c'est un label qui est porté par une association d'entreprises, donc l'association Biopartenaire que je représente aujourd'hui. On a créé, on va dire, ce label, ce cadre à partir des années 2007-2008 pour promouvoir des relations pérennes et de proximité entre des entreprises de transformation et des agriculteurs locaux. Voilà. Donc c'est un label qui est apposé sur des produits finis et qui garantit, on va dire, une relation pérenne, un projet autour de matières premières entre des producteurs et des transformateurs.
L'objectif de ce label était de proposer une charte, mettons, de fonctionnement, je ne sais pas comment ça s'appelle, un cahier des charges particulier.
Un cahier des charges qui permet de garantir qu'on a affaire en fait, à des acteurs impliqués dans les filières biologiques et dans un développement durable global autour de la filière.
On candidate ou alors c'est vous qui avez démarché ces entreprises ?
Au départ, c'était vraiment les entreprises qui se sont mobilisées, qui se sont concertées, réunies pour promouvoir des actions qu'elles avaient déjà, des engagements qu'ils avaient déjà auprès de producteurs et pouvoir justement différencier leurs produits et promouvoir leur partenariat avec ces producteurs au grand public. Et petit à petit, le label a d'abord été apposé à un nombre restreint de filières. Et petit à petit, ce label se faisant connaître, des entreprises viennent nous voir pour nous demander s'ils peuvent rentrer pour telle ou telle filière dans le cadre.
Voilà, donc qu'on comprenne bien, c'est bien des entreprises qui s'associent au départ pour créer ce label. Et après, ça fait envie, quoi.
Exactement.
D'accord. Alors faites-vous partie, l'Herbier du Diwa ou Phytosan, des premiers qui se sont associés justement pour créer ce label ? Thibert, peut-être ?
Oui, donc pour l'Herbier du Diwa, ce n'est pas l'entreprise en tant que telle, c'est une filière. Donc pour nous, on a eu un projet pilote sur le tilleul où nous avons adhéré dès le départ. Et pour avoir une sorte d'accord de tripartie entre trois entreprises, car l'Herbier du Diwa n'a pas de produit fini. Donc nous livrons de la matière première à une entreprise qui, elle, en sache et commercialise à travers des metteurs en marché le tilleul. Et nous, on est juste le trait d'union entre le producteur et cette structure de metteurs en marché. Et c'était une façon d'avoir une plus grande transparence et une discussion entre ces trois structures, donc les producteurs, l'herbier qui fait tout le travail de rassembler la matière, de contrôle qualité et de première transformation, disons, sur la matière pour la donner ensuite à la société qui commercialise.
Qui, elle, fera donc le produit fini.
Qui, elle, fait le produit fini et propose à différents magasins spécialisés ou supermarchés spécialisés ces matières premières.
Alors là, encore une fois, pour qu'on comprenne bien la démarche, c'est pour que le produit fini obtienne ce label Biosolidaire, il faut quand même que dans la chaîne, au départ, il y ait eu un cahier des charges à peu près respecté.
Exactement. Donc l'idée, c'est que les trois acteurs soient d'accord avec ce cahier des charges, qu'il y ait un vrai dialogue entre ces partenaires, un dialogue dans le temps, pour avoir aussi une vision pour le futur et permettre à chacun d'avoir une possibilité d'investir, d'avancer et d'améliorer sa situation.
Guy Leclerc pour Phytosan, vous êtes producteur de produits finis. Comment dit-on?
Disons que nous sommes transformateurs négociants et je disons qu'on peut se placer un petit peu sur dans le même secteur d'activité que l'herbier du Diois, dans la mesure où nous faisons aussi du négoce d'herboristerie, mais nous fabriquons des tisanes notamment. C'est un de nos secteurs d'activité. Nous fabriquons notamment des tisanes suivant des formulations préconisées par nos clients. Mais comme vous le savez, Phytosan, comme l'herbier, est une entreprise qui a été pionnière dans les plantes aromatiques et médicinales certifiées biologiques. Donc ça, je pense que c'est important à dire parce que le biosolidaire démarre au départ. Le prérequis, disons, c'est déjà de transformer ou de négocier des plantes produites suivant le cahier des charges bio. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que nous apporte le biosolidaire, auquel on adhère depuis 2010, pour certaines filières, donc pour certains de nos produits, ça nous apporte comme je répète un peu ce que Tilbert a dit, mais ça nous apporte une plus grande concertation avec les producteurs. C'est-à-dire qu'il y a un véritable partenariat entre le producteur, l'entreprise et ensuite le client de l'entreprise qui, lui, va distribuer nos produits à la clientèle individuelle que nous sommes, aux consommateurs. Donc, encore une fois, on représente aussi ce trait d'union, mais d'une façon beaucoup plus concertée. On n'a pas donné tous les détails du cahier des charges. Il faut en parler. Je pense qu'il y a quand même... on a parlé notamment de développement durable et ça se concrétise par certains aspects que... Mais pour me résumer, nous avons engagé la démarche sur certaines filières. C'est une démarche qui se développe, qui fonctionne bien. Il a fallu bien sûr un temps d'adaptation. On sent quand même un bon intérêt de la part de nos clients et de la part de nos fournisseurs, donc des producteurs, pour adhérer à cette charte.
Alors, expliquons maintenant aux auditeurs, puisque effectivement, le cahier des charges biologiques, ça je pense qu'un grand nombre de gens le connaissent. On sait déjà aussi ce qu'il implique. Quels sont les plus du label biosolidaire, s'il y en a?
Bien sûr, c'est le but de ce label. C'est de ne pas s'arrêter juste à une réglementation qui est certes déjà, qui a fait avancer beaucoup l'agriculture, effectivement, mais on s'attarde donc pas tant à l'aspect agronomique, on va dire, de la production. Plutôt, le cahier des charges biosolidaires s'attarde à mettre en place une contractualisation, déjà, c'est un premier point, pérenne, c'est-à-dire sur un minimum de 3 ans, avec des prix rémunérateurs pour les producteurs, donc des prix qui sont aussi garantis dans la durée. Donc ça, c'est des points du cahier des charges très importants. En dehors de ce cadre contractuel qui déjà va engager les partenaires dans des discussions et dans de la transparence, comme on l'a dit précédemment, il y a tout un travail de plan de développement, donc c'est-à-dire de projets collectifs et d'amélioration continue de la filière pour qu'elle puisse se pérenniser dans la durée. Donc voilà, si on devait un petit peu remettre par points précis, donc on a un contrat de 3 ans avec des prix et des volumes garantis, un plan de développement travaillé en concertation entre les acteurs et qui lui-même... Ces points-là vont être aussi contrôlés, c'est important, on a un peu parlé. Pour garantir aux consommateurs, on a un contrôle qui se fait par un organisme externe, qui est mandaté en fait par l'association et qui va valider les points de la charte en grille de contrôle afin de valider d'une année sur l'autre qu'il y ait bien une évolution positive et pérenne dans les relations commerciales et de partenariat entre les acteurs. Et un deuxième volet du label, c'est de garantir que les entreprises et même les producteurs qui vont entrer dans ces filières biosolidaires ont un travail de développement durable général, on va dire global sur leur structure, donc d'accompagnement donc sur les exploitations, ça va être qu'est-ce qu'elles font au niveau de la gestion de leurs déchets végétaux, qu'est-ce qu'elles font au niveau de la gestion de leur énergétique. Et sur les entreprises, ça va être plutôt de voir qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour leurs salariés, qu'est-ce qu'elles ont mis en place aussi au niveau de leur production en termes de gestion des déchets aussi. Enfin, je pense que les Guy et Tilberg pourront donner des exemples concrets de ce que leurs entreprises ont mis en place. Et donc, c'est vraiment un cadre général de promotion de l'agriculture biologique, mais dans ses aspects agronomiques sociaux et aussi écologiques en plus.
Ça fait penser à du commerce équitable. C'est le premier système de commerce équitable Nord-Nord.
L'idée de départ, c'était pour beaucoup de sociétés qui étaient dans cette association, ils travaillaient déjà avec le commerce équitable et c'est de trouver aussi un équilibre. C'est-à-dire pour nous, on arrivait à communiquer sur ces échanges Nord-Sud et on sentait vraiment un vide sur le travail que nous faisions autour de nous, donc pour l'herbier qui était dans le Diois.
L'apport d'essence exotique, on va dire, était géré en commerce équitable, mais exactement. Pas localement.
Voilà, on travaillait déjà sur les épices en commerce équitable, et on n'avait pas le pendant pour la partie le tilleul, le thym,
qu'on tout ce qui est produit localement.
Ouais. Exactement. Donc, et plusieurs entreprises dans la région et dans le sud-est avaient ce besoin de réussir à communiquer sur le travail qu'il faisait depuis des années, depuis une vingtaine d'années, déjà avec les producteurs locaux. Donc pour beaucoup, il n'y avait pas vraiment de changement. Le cahier des charges a été créé sur des faits que nous réalisions chaque année. Donc c'était la communication avec les producteurs, essayer d'améliorer leur rentabilité à la production, au séchage, après dans les entreprises, dans la transformation de la matière pour réussir à avoir un coût juste et en trouvant une harmonie entre être compétitif et en même temps pouvoir avoir un travail dans le temps avec les producteurs. Et ça a été un peu les idées initiales pour créer ce label. Et aujourd'hui, ce label permet aussi de stimuler des nouvelles entreprises qui étaient au départ pas forcément attirées par le bio ou l'équitable et qui, à travers ce label, peuvent trouver un moyen de défendre un marché local. Et ce qui est très important pour les producteurs.
Je tiens à préciser, enfin, c'est vrai que beaucoup de filières pilotes se sont montées sur des partenariats existants, mais on a aussi des cas d'entreprises qui se sont posé la question de relocaliser leurs approvisionnements, notamment dans le cas du tournesol. On a un huilier, par exemple, qui a monté une filière vraiment locale, on va dire, régionale, qui a cherché à relocaliser certains de ses approvisionnements à travers ce cadre-là. Donc c'était à la fois pour, on va dire, promouvoir et valoriser des démarches existantes, certes, mais ça a aussi permis à certaines entreprises d'avoir un accompagnement dans une relocalisation de leur approvisionnement qui n'est pas toujours facile en termes de logistique. Travailler en direct avec les coopératives ou les producteurs, ça entraîne des coûts parfois supplémentaires aussi. Le coût de la matière première est parfois aussi un peu plus haut que le marché d'importation. Donc c'est aussi une démarche qui cherche à relocaliser et à réactiver des interactions entre des producteurs locaux et une entreprise dans son territoire.
Alors là, on a deux entreprises qui ont plutôt démarché, on va dire, localement assez fortement, sauf bien sûr pour les essences exotiques extérieures. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, nous donner des exemples très concrets de ce que ça vous a quand même un petit peu imposé de faire, même si on a bien compris que c'est une démarche qui a presque été, validée, enfin glorifiée par la mise en place de ce label?
Disons que de mon côté, donc moi je suis responsable des achats spécifiquement sur la France et donc sur la région Rhône-Alpes et en particulier bien sûr sur la région d'Oise. Donc concrètement, ce qu'on a fait, on a engagé des contrats avec des producteurs sur des plantes qui pour nous sont très importantes, comme le bleuet par exemple, puisqu'on fabrique beaucoup de produits à base de bleuet pour la cosmétique bio. On a aussi contractualisé certains producteurs sur le lavandin grosso. Donc sur l'huile essentielle de lavandin grosso. Et dernièrement, donc cette année, on a élargi notre gamme sur d'autres produits comme l'huile essentielle de thym, etc., l'huile essentielle de d'hélichryse, produit tendrome. Et qu'est-ce que ça impliquait pour nous? Mais je pense que on s'est plus penché sur les problématiques respectives, c'est-à-dire qu'on a vu le cahier des charges, on a été stimulé dans notre partenariat avec les producteurs en les aidant, en les accompagnant peut-être un peu plus. Évidemment, c'est un travail qui se fait pas en un jour, hein, c'est au fil des rencontres. Mais on s'intéresse au coût de production. On essaie d'améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on va participer en le phytosant, s'est engagé aussi à apporter un appui technique un peu plus soutenu pour certaines productions. Et de ce fait-là, un partenariat plus intime se crée, ce qui, je pense, est un gage de durabilité, mais ce qui montre aussi à notre clientèle qui est demandeuse de ce label, de montrer qu'il y a un travail main dans la main qui se fait et qui est, aussi, qui est une garantie pour eux de qualité. De qualité et d'implication dans le tissu social au niveau de la région de production. Et donc c'est un travail évidemment intéressant, prenant. C'est un apprentissage aussi parce qu'il faut, il faut y consacrer du temps. Mais je pense que tout le monde a y gagné.
Et donc là, concrètement, c'est beaucoup plus de temps, on va dire, presque du cas par cas, alors qu'avant, on va dire, je ne sais peut-être pas votre cas, mais l'entreprise va traiter en gros des approvisionnements un peu massifs. Là, on est vraiment quasi à connaître chacun de ses producteurs.
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, au début, quand on a démarré, quand les premiers producteurs en agriculture biologique ont commencé à se développer et être demandeurs d'informations, il fallait forcément s'unir pour réussir. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits techniquement et au niveau des marchés aussi pour grandir. Mais aujourd'hui, la démarche biosolidaire continue un petit peu dans ce même esprit, sachant qu'on connaît de mieux en mieux nos produits. On peut, convaincre le client que nous connaissons parfaitement tout de A à Z, pas seulement au niveau de la qualité du produit, mais aussi au niveau de la façon dont il a été élaboré et des coûts que ça a engendré, des efforts que ça a engendré pour le produire. De ce fait-là, je pense qu'on a des produits plus authentiques. Je disais que tout le monde a gagné. C'est vrai qu'il est plus facile pour nous aussi de contrôler la qualité des produits produits localement. Et on est sur le terrain et on a plus de facilité à répondre aussi aux variations de demande du marché.
Ce qui permet donc de, parfois même d'anticiper une chute complète, l'absence d'une essence qui ne pousserait pas cette année-là, ce genre de choses.
Disons qu'on va pas, y a pas de scénario catastrophe à envisager, mais non, ce qui est intéressant, il faut savoir que le produit naturel, en cosmétique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à travailler et c'est quand même assez récent dans l'histoire de la cosmétique. Le fait de se rapprocher du producteur, de bien le connaître, de maîtriser pas à pas, de le suivre, de l'accompagner, ça permet de bien expliquer à l'utilisateur final ce qu'on fait et de lui exprimer aussi les difficultés de la chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la cosmétique biologique a été initiée il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis cosmétique biologique, naturelle et biologique certifiée, aussi sujette à un cahier des charges assez sévère, assez strict, qui protège le consommateur. Notre usine, c'est la nature. Et je pense qu'en travaillant davantage et en montrant qu'on sait faire avec le producteur, eh bien, nos clients vont s'intéresser à cette démarche et vont pouvoir découvrir, et nous avons beaucoup de visiteurs sur les sites de distillation et de production, qui viennent voir et qui posent des questions en direct aux produits, qui se promènent dans les champs et qui peuvent se rendre compte aussi de la difficulté de faire un produit naturel destiné à la cosmétique.
J'avais cette question parce que l'un comme l'autre, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, visiblement on peut prendre le label biosolidaire que sur une partie de son activité. Et donc découper ça, alors qu'est-ce qui motive le fait qu'on ne passe pas tout, hein ? Comme on dit, les gens ne passent pas complètement en bio, ils vont passer uniquement les terres qui sont faciles à travailler, enfin ce genre de choses. Alors voilà, c'est ma question.
Donc ça a été longtemps discuté et pour nous, même pour l'herbier du Diwa, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est une sorte d'injustice aussi vers les autres producteurs. Le choix qui a été fait de certifier une filière, c'est-à-dire de du champ jusqu'au produit fini dans le magasin pour le consommateur final, c'est de vraiment avoir un suivi à la loupe de cette matière-là. Alors si vous imaginez, par exemple, pour l'herbier du Diwa, où on travaille plus de 300 produits, qu'on puisse nous certifier sur l'ensemble de la gamme des produits juste parce qu'on a une démarche qui satisferait une sorte de contrôle sur les 300 produits, ça serait beaucoup moins précis et pointilleux qu'aujourd'hui où on suit la matière du champ, de l'arbre ou de la terre jusque le produit fini. Donc ça demande forcément de prendre cas par cas chaque problème de production pour réussir à avoir une analyse vraiment pertinente et efficace dans le but que nous avons, c'est-à-dire de réussir à amener le producteur à la meilleure rentabilité de son produit et en même temps de répondre à la difficulté du metteur en marché, c'est de réussir à vendre le produit fini. Parce que s'il n'y a pas de vente, on détruit la filière en même temps. Donc il faut trouver un équilibre entre le producteur qui a besoin de gagner sa vie dans le temps et d'avoir une sorte de pérennité qui sache au moment où il plante, si c'est par exemple une production pour plusieurs années, que ben, il ait une vision sur au moins un minimum de 5-6 ans si un marché existe. Et en même temps, le metteur en marché, lui, il a besoin d'avoir un produit fini qui soit vendable, donc à un prix abordable et aussi avec un contexte de une histoire autour de ce produit qui puisse séduire le client final. Le biosolidaire, c'est vraiment la concrétisation de cette recherche de communication vers l'utilisateur du produit, de tout le travail qui a été fait en amont. Et c'est pour cette raison qu'on est produit par produit, donc par filière. Chez un même producteur, on peut avoir, par exemple, le thym qui va être certifié, mais l'estragon qui est juste 10 mètres à côté ne le saura pas parce qu'il n'y a pas la filière dans son ensemble qui a été constituée pour diverses raisons. Donc c'est vraiment le...
Est-ce uniquement la raison économique, le fait que le produit se vendra, qui motive la labellisation d'une filière?
Non, c'est justement l'harmonie entre le prix, donc l'aspect économique, et l'histoire qui est autour du produit et la demande. C'est-à-dire, est-ce que c'est un produit qui séduit? Si le produit n'a pas d'utilité pour le client final, on n'arrivera pas à le vendre. Après, il faut que dans le rayon, on arrive à expliquer à l'acheteur, ce produit-là a été fabriqué en Rhône-Alpes ou dans la Drôme, ou voilà, il a un coût supérieur, mais sachez que l'ensemble de la filière a fait un effort de transparence et de partage des coûts et que le prix que vous allez payer est tout à fait un prix qui a été discuté entre les différents partenaires. Et je pense que ça, c'est quand même une grande différence entre un prix qui a été décidé par le dernier acteur de la chaîne et où il y a une opacité totale sur le reste de la filière qui est en dessous.
La question que je voulais poser avec cette seule motivation, c'est est-ce que vous pourriez être à l'impulsion justement d'une sauvegarde d'une filière en mettant de l'énergie particulière sur le fait qu'elle puisse se vendre, qu'on la remette sur le marché, qu'on réintéresse les gens avec, justement par cette labellisation?
Oui, je pense que certainement, on ne fait rien sans effort. Il y a toujours un point de départ. Mais je pense que c'est vrai qu'en connaissant bien la charte et la démarche, en la pratiquant, petit à petit, on peut la développer. On constate que les entreprises ont une responsabilité sociétale, donc il y a un aspect, je dirais, éthique dans nos produits, qui est de plus en plus mis en valeur, de plus en plus pris en considération par le consommateur. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut progresser. C'est-à-dire qu'on voudrait que la charte, globalement, assure, comme le disait Hilbert, une harmonie du producteur jusqu'au consommateur, c'est-à-dire qu'on essaie de se concerter pour que chacun gagne, chacun consomme et produise harmonieusement.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Nous allons poursuivre avec Laurence Arnaud. Qui a porté ce projet de label Biosolidaire?
Ce sont des entreprises un peu pionnières de la bio. Alors, au départ, elles étaient 5. C'était vraiment le commerce équitable qui a été d'abord valorisé. Commerce équitable traditionnel nord-sud, donc porté par des entreprises, des PME engagées dans l'agriculture biologique autour de leurs échanges, on va dire, internationaux. Et puis par la suite, donc, il y a eu une grosse réflexion autour des échanges dits de commerce équitable nord-nord. Et c'est comme ça qu'a été créé finalement le label Biosolidaire. Et on s'est retrouvé donc avec une association biopartenaire qui portait une démarche universelle, mais autour de deux labels, le label bioéquitable pour les échanges nord-sud et le label Biosolidaire pour les échanges nord-nord. Donc Euronat, La Sapad, Émile Noël, Arcadie et Kaoka, bien sûr, pour le cacao.
Donc instantanément, il y a eu une création d'associations.
Exactement, instantanément après des échanges, évidemment.
Oui.
Création d'associations, loi 1901. Le label, c'est d'abord un outil de communication sur le produit fini pour les consommateurs. Une garantie derrière, puisqu'il représente un cahier des charges qui est décliné en points de contrôle, c'est l'aspect label. Ensuite, l'association autour du label, l'association biopartenaire, elle accompagne les entreprises pour se mettre, on va dire, aux normes, en adéquation avec les points de contrôle, l'accompagne aussi dans sa réflexion autour de comment je vais travailler avec mes fournisseurs, l'accompagne lors des réunions pour la discussion sur les prix, l'accompagne aussi dans les calculs de coûts de production qui sont demandés à travers le cahier des charges. Et aussi, l'association, en dehors du label seul, a une mission de communication et de valorisation de ces démarches éthiques et solidaires auprès du grand public à travers des actions en magasin ou en grand public.
Quels sont les moyens humains et financiers dont dispose l'association ?
Alors, nous sommes 2 salariés et financiers. Donc, il faut savoir qu'on n'est absolument pas subventionné. C'est les entreprises qui vont adhérer à l'association qui vont permettre au projet de se développer et aux salariés de travailler dans des bonnes conditions.
Peut-on connaître le montant de leur cotisation ?
C'est basé, c'est en fonction de leur développement de filière. Donc, ça va
plus ils ont de filières labellisées, plus la cotisation sera chère ?
Plus ils vont créer de la valeur, on va dire, sur des filières labellisées, plus la cotisation sera chère. Alors, c'est pas exponentiel.
Est-ce qu'on peut avoir quand même une fourchette ?
Ça va de 500 à plus de 5000 euros, donc...
Okay. Alors, y a-t-il eu des points de blocage, des difficultés ? Est-ce que vous pouvez faire un bilan maintenant un petit peu de l'activité de l'association et du label ?
Il y a eu un grand tournant, je pense, avec la réflexion autour de cette labellisation biosolidaire, puisqu'au départ, l'association avait donc monté des filières à l'international. Et donc, petit à petit, certains se sont dit, mais on a aussi des approvisionnements en France, comment les valoriser ou comment les assurer pour pouvoir les pérenniser et pas devoir demain importer de l'étranger. Donc, ça a été une grosse réflexion autour de ce thème-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, le commerce équitable en France, le marché du commerce équitable, est moins en vogue qu'auparavant. C'est vrai que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits de proximité, des relations plus directes avec le producteur. Donc c'est un mal pour un bien, puisque notre label biosolidaire se développe plus finalement que le label bioéquitable. Ce qui est un peu malheureux parce qu'on est sur des filières quand même qui ne sont pas du tout antinomiques, qui sont complémentaires, on n'est pas sur des mêmes productions. C'est vraiment une démarche et une démarche universelle qu'on souhaite développer à travers ces deux labels. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Des grosses crises, non, à part, je vous dis...
Des échecs, par exemple, quelque chose de particulier qui aurait été quelque chose de compliqué
Ce qui est un peu difficile dans l'association, mais qui est aussi une grande richesse, c'est de réussir à faire communiquer, travailler, échanger dans une certaine transparence des entreprises qui sont parfois aussi concurrentes, qui sont sur des mêmes marchés, qui se connaissent par ailleurs ou pas, et d'arriver à avoir une vision commune et d'arriver à mettre des bornes qui ne soient pas trop floues et pas trop légères, mais pas non plus trop rigides pour que un maximum de gens puissent aussi s'y retrouver. Ça, je pense que c'est le gros défi de l'association. Et donc pour ça, on a des comités qui travaillent par thème spécifique, comité technique, comité de communication, comité de gestion des labels, qui permet de répondre à des questions plus spécifiques. Mais pour travailler à l'animation de ces comités, à l'animation des entreprises adhérentes, il faut savoir que c'est à la fois une difficulté et à la fois une grande richesse, c'est d'avoir un partage de connaissances et de vision de toutes ces entreprises qui sont très différentes les unes des autres, autour d'un projet collectif.
Qui contacter ?
Nous, à l'association, donc Pierre Gobert ou Laurence Arnaud en fonction. Donc Pierre, qui est le coordinateur de l'association, répondra plus aux questions d'ordre de commerce équitable. Si c'est sur du commerce, on va dire, biosolidaire, c'est plus moi qu'il faut contacter. Le téléphone, c'est 04 75 61 94 43. Vous pouvez aussi avoir un certain nombre d'informations sur notre site www.biopartenairetoutattaché.com. Voilà.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Il me reste donc à vous remercier tous. Laurence Arnaud de l'association Biopartenaire.
Merci de m'avoir invité.
Thibert Vink, PDG, dit-on, de l'Herbier du Diwa. Merci.
Merci bien à vous.
Et Guy Leclerc, responsable
des achats,
voilà,
de Phytosan.
Merci également.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Un programme soutenu par BioValley.